Nzamba.
Nzambi rasamirana. Vous écoutez la radio Nzamba, Agathe Kakawe, c'est le journal de ce lundi 5 juillet 2021, donc voici d'abord les titres. Encore des cadavres découverts, trois corps sans vie ont été retrouvés hier en province Cibitoke, deux n'ont pas encore été identifiés. Le lycée de Gatara vient de passer 4 mois sans eau potable, une situation que déplorent les parents et les élèves qui réclament une solution rapide. L'OMS alerte sur la troisième vague de la Covid-19, particulièrement dévastatrice avec le variant Delta, l'agence onusienne, met l'accent sur le continent africain, dont des pays de la région des Grands Lacs. Et puis c'est un homme qui ne mâche pas ses mots, même quand il s'agit de pointer du doigt les crimes du régime. Il s'agit de Monseigneur Simon Lamoana, qui a fêté ses 75 ans ce dimanche. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Au micro, vous êtes avec Valérie Moucho.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Macabre découverte en province Cibitoke hier dimanche, trois corps sans vie d'hommes, dont deux ne sont pas encore identifiés, ont été trouvés dans des endroits différents selon les témoins. La campagne SOS Torture, qui milite pour les droits de l'homme, dénonce ces meurtres et réclame une enquête pour identifier les auteurs de ces crimes. Les détails avec Vanessa Muhiteka.
Le corps sans vie qui a été identifié est celui d'un quinquagénaire. Il gisait dans un ravin sur la colline Samoué, non loin du bureau de la commune de Gombo, ses lieux de source recueillis sur place. Charles Nizigiman a habité le village d'Opé, situé à moins de 4 km du chef-lieu de cette commune. Les circonstances de sa mort n'ont pas encore été déterminées. Deux autres cadavres se trouvaient dans un champ de manioc à Kaburanwa, à moins d'une centaine de kilomètres de la route nationale numéro 5 dans la commune Buganda. Ils étaient ligotés et attachés à un arbre selon des sources sur place, ni des forces de sécurité alertées par les pêcheurs qui se rendaient à la rivière Rusizi, ni les habitants de cette colline n'ont pas pu reconnaître les victimes. Ces trois meurtres sont des crimes de trop selon l'Organisation de défense des droits humains SOS Torture. Les auteurs devraient être traqués et châtiés selon Aimé Kwizera, chargé de la communication à SOS Torture.
Nous déplorons que des vies humaines continuent à être fauchées dans des coins cernés par des rondes nocturnes et des miliciens Imbonerakure. Nous rappelons que ceci s'ajoute à plus de 280 corps sans vie retrouvés dans différents coins du pays depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement en juin 2020. Nous exigeons des enquêtes pour déterminer les auteurs, les mobiles et les circonstances des assassinats, ainsi que le désarmement des miliciens Imbonerakure.
Nous avons essayé de joindre par téléphone le porte-parole de la police, mais en vain. A rappelé que dans son récent rapport, SOS Torture a documenté plus de 560 personnes tuées depuis la cession des valises d'Echimier à la tête du pays en juin 2020.
Les voisins d'une veuve habitant la commune Nyalusange dans la province de Gitega alertent sur sa sécurité et les sous-menaces des agents de l'administration et de la police. En cause, un de ses fils est soupçonné de faire partie d'un groupe de personnes qui ont tué un chauffeur la semaine dernière dans la même commune de Nyalusange. Les voisins de cette veuve indiquent qu'elle est plutôt menacée parce que ses fils sont membres du parti CNL de l'opposant Agathon Gwasa. C'est un reportage signé Josephine Jones Munzimana.
Cette femme qui est sous menace est la veuve de feu Silver Baribonekeza de Nyarusange. Un de ses fils, prénommé Claude, est accusé d'être parmi le groupe qui a tué le conducteur d'une voiture dans la localité de Ngondo. Claude est membre du parti CNL d'Agathon Gwasa. Il est aujourd'hui en cavale par peur d'être tué. La police et l'administration sont à l'œuvre pour savoir si exactement la personne recherchée est réellement le fils de la veuve. Ses voisins demandent le renforcement de sa sécurité.
Elle
est actuellement menacé à cause de la récente attaque de Nyarusange. Il y aurait quelqu'un qui aurait prononcé le nom de Claude orphelin de père et on soupçonnait un de ses deux fils. Ceux qui sont à l'origine de ces menaces sont l'administrateur de Nyarusange et le commissaire de police à Gitega. Ces deux fils sont actuellement en cavale et ceux qui les ont menacés les accusent d'être des fauteurs de troubles à Nyarusange. Elles demandent le renforcement de sa sécurité.
Les voisins de la veuve sous menace s'inquiètent d'avoir entendu que la personne qui a été exécutée après son arrestation avait demandé qu'on l'amène chez le président du parti CNDD-FDD dans la localité, ce qui lui a été refusé. Ils ne comprennent pas pourquoi les membres du parti CNL sont accusés d'être les auteurs de ces attaques à main armée. Les menaces et intimidations chez la veuve s'accentuent du jour au lendemain jusqu'à son domicile.
Après l'arrestation de cette personne, elle avait demandé qu'on achemine au domicile du responsable du parti CNDD-FDD, ce qui lui a été refusé. Mais aujourd'hui, ils accusent le survivant de Silver. Sa famille est sous menace. Ils accusent les membres du parti CNL. Ils vont lui intimider à domicile que ses enfants sont des criminels, que ce sont eux qui viennent tuer les gens de Nyarusange. L'administrateur et le commissaire provincial ont demandé au notable chef de colline d'enquêter sur le nom que le commissaire saura lui-même le sort qui sera réservé à la veuve.
Après des attaques répétitives qui ont déjà coûté la vie à plus de 30 personnes, les membres du parti CNL, les démobilisés et retraités ex-FAB, sont souvent accusés à tort et à travers d'être des auteurs de ces attaques et sont victimes des arrestations intempestives. Dans un communiqué de presse de samedi dernier, le parti CNL condamne ces arrestations et demande au gouvernement de diligenter des enquêtes minutieuses pour pouvoir débusquer les vrais auteurs de ces attaques. Le parti CNL rappelle qu'il est un parti politique qui se conforme à la loi et qui ne recourt pas à la violence dans la compétition politique. La rédaction de la radio Inzamba Gateka Kawe n'a pas encore eu la version de Ferdinand Murikiye, administrateur de la commune Nyarusange, ni celle d'Evariste Habogorimana, commissaire provincial de police à Gitega, pour éclairer l'opinion sur ces menaces qui sont dirigées contre cette veuve.
Des arrestations dans la commune de Bugizo, dans la province de Makamba, ces arrestations sont consécutives à une grenade lancée au domicile du chef de zone Minga de la commune de Bugizo le mois passé. Au moins 5 personnes, dont 3 anciens militaires, ont été déjà arrêtées. Le point avec Delicia Kamikazi.
Selon des sources à Bugizo, des arrestations en cascade sont signalées sur la colline d'Egama de la commune Bugizo dans la province de Makamba. On dénombre 5 personnes dont 3 anciens militaires qui sont en arrestation. Ces arrestations sont liées à l'attaque à la grenade au domicile du chef de zone Minga le mois dernier. Ce samedi 3 juillet, au chef-lieu de la province Makamba, le nommé Christophe Kizito a été arrêté par la police au quartier Makamba 2. Notre source indique qu'il est soupçonné d'être parmi ceux qui ont lancé une grenade contre le chef de zone Minga, Eric Nyondazi, le mois dernier. D'autres sources à Bugizo expliquent que son arrestation est liée aux rumeurs nourries par certains des membres CNDD-FDD de cette colline dans le but de se débarrasser de certains anciens militaires et membres de l'opposition. Ils disent ne pas comprendre comment des arrestations visent même des gens qui n'habitent pas la colline Lutegama pour le moment. Signalons que 2 anciens militaires en retraite et un civil avaient été libérés la semaine dernière, tandis qu'un autre retraité, Zeno Kaboula, arrêté sur le lieu de l'attaque, s'était évadé du cachot du commissariat communal de police à Makamba le 23 juin dernier. Le policier qui gardait le cachot au moment de son évasion a été condamné à son tour à 10 ans de prison ferme. D'autres personnes dans la commune de Bugizo trouvent qu'il y aurait des gens qui veulent cacher la vérité sur les attaques perpétrées contre l'administrateur de la commune de Bugizo, Gérard Hazimana, et son chef de zone, Eric Nyondazi.
Radio Nzamba Gateka Kawe, c'est le journal en français. Une courte pause et on se retrouve pour la suite de l'actualité burundaise.
Nzamba.
La suite de ce journal avec l'archevêque de Gitega, Simon Hamwana, qui a célébré ce dimanche son jubilé de 75 ans de naissance. Un des rares hommes qui ose affronter le pouvoir en donnant des conseils jusqu'au président de la République et en dénonçant un pouvoir qui viole les principes sacro-saints des droits humains. Monseigneur Simon Amwana est connu pour son charisme en tant qu'homme d'église. On fait le point avec Béni Axel Akana.
Un homme d'église qui ose pointer du doigt les abus du pouvoir, l'archevêque Simon Amwana est connu comme celui qui aura gêné le pouvoir du CNDD-FDD depuis l'annonce du troisième mandat inconstitutionnel de feu président Pierre Nkurunziza jusqu'aujourd'hui. En 2018, alors que le pouvoir du CNDD-FDD chantait la parole de Dieu dans leurs actions, l'archevêque de Gitega n'a pas hésité de remettre en cause ce message du parti présidentiel.
Moi, j'ai été dans cette croisade de prière du CNDD-FDD. J'ai entendu de mes propres oreilles comment ils ont un programme de mettre en avant la parole de Dieu. Ceux qui étaient à côté de moi, je les ai jurés en leur disant ceci. Si vous parvenez à honorer ce programme, vous deviendrez des saints, mais je suis sûr que ce ne sont que des paroles en l'air.
Cet archevêque de Gitega a poursuivi sa mission de redresser le pouvoir par des conseils en tant que personnalité morale. Après la venue du général Évariste Ndayishimiye, les relations entre l'église catholique et le pouvoir semblent aller de l'avant. Mais Monseigneur Simon Amwana n'est pas du tout satisfait du changement.
Je m'adresse à vous, Excellence, notre président de la République, vous, le gouvernement. Nous pensons que vous êtes venu ici avec un esprit d'amour et de respect pour Dieu, pas avec un esprit de peur de perdre les postes que vous occupez.
75 ans de naissance, c'est ce qu'on célèbre ce dimanche. À Gitega, le chef de l'État était là. Des promesses de changement sans succès, c'est ce que les Burundais attendent toujours malgré les efforts de l'actuel archevêque de Gitega.
Il s'observe depuis 4 mois une pénurie d'eau potable au lycée de Gatara, une école à régime d'internat située en province de Kayanza. Selon des informations récoltées sur place, cette pénurie est due à la destruction des tuyaux par des pluies diluviennes. Alors que ce lundi, le lycée a accueilli des élèves finalistes qui vont y passer l'examen d'état à partir de ce mardi. Les parents et les élèves demandent que ce problème soit résolu pour ne pas indisposer ces élèves. Les détails avec Jacob Sibomana.
Ces tuyaux qui ont été détruits conduisaient de l'eau en provenance de la commune Muruta de la même province en direction de la commune Gatara. Les sources sur place font savoir que l'administration a essayé de réhabiliter ces infrastructures, mais en vain. Par conséquent, cet état de choses a eu des impacts sur la vie des élèves de cette école, du moment qu'ils étaient contraints de descendre dans les marais à la recherche de l'eau aussi bien les matins que les après-midi. Des moments pourtant privilégiés pour la révision des matières afin de se préparer à des évaluations en ligne. La situation se présente ainsi au moment où ce lundi, ce lycée a accueilli des élèves finalistes des humanités en provenance de différentes communes que compte la province de Kayanza et qui vont y passer l'examen d'état depuis ce mardi jusqu'à vendredi. Les parents, de même que les élèves, disent que pour pallier à ce problème, il faut que l'administration s'investisse à puiser de l'eau que vont utiliser ces élèves durant tout le séjour afin que pareille situation ne soit pas préjudiciable au rendement. La rédaction de la radio Nzamba Agateka Kawa a essayé de joindre Deus Teddy Wigilimana, la directeur du lycée de Gatara, sans succès.
Les décès liés à la COVID-19 ont augmenté de 15% dans 38 pays africains au cours de la semaine qui s'est terminée le 27 juin de cette année. Et la vitesse et l'ampleur de la troisième vague avec le variant Delta sont sans précédent. C'est ce qu'a déclaré Matsidiso Moeti, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Le nouveau variant a été détecté dans 79% des échantillons en République démocratique du Congo et dans 97% des échantillons en Ouganda au cours de la même semaine. Les détails dans ce reportage signé Josine Kadze.
Ce variant découvert pour la première fois en Inde a été signalé dans 7 pays dont 9 connaissent une recrudescence des cas. Selon l'OMS, il s'agit de la variante la plus contagieuse à ce jour, dont la transmissibilité est estimée à 60% supérieure à celle des autres variantes. Selon Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, les décès de la COVID-19 ont augmenté de 15% dans 38 pays africains au cours de la semaine se terminant le 27 juin de cette année. Le variant Delta a été détecté dans 79% des échantillons séquencés en République démocratique du Congo et dans 97% des échantillons séquencés en Ouganda. En Ouganda également, 66% des cas graves chez les personnes de moins de 45 ans sont attribués au variant Delta, a fait savoir Dr Moeti. L'OMS estime que la demande d'oxygène en Afrique est désormais 50% plus élevée que lors du pic de la première vague en un et des milliers de bouteilles d'oxygène sont en cours d'approvisionnement pour l'Ouganda et le Rwanda. Pour ce qui est du Burundi, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a confirmé lors des cérémonies de commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance que le gouvernement a tout fait pour combattre le Covid-19. Toute personne contaminée du Covid-19 est recensée immédiatement pour guérir à moins d'une semaine. Evariste Ndayishimiye a ajouté que le Burundi dépasse de loin certains pays africains dans la lutte contre cette épidémie. Il précise ici que les pays limitrophes minimisent l'ampleur de ce fléau.
Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci à toute l'équipe qui a participé à sa production. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Au revoir et à demain pour une nouvelle édition.